Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La situation est confuse ce matin au Zimbabwe et des tirs ont été entendus cette nuit près de la résidence du président Robert Mugabe. Dans la foulée, des militaires ont pris la parole à la télévision. Pas un coup d'État, disent-ils, mais la chasse aux corrompus, aux criminels. Les institutions sont encerclées de véhicules blindés ce matin.
Il tournait un reportage pour France Culture dans les Alpes sur la route des migrants. Raphaël Kraft s'est fait arrêter ce week-end avec une consoeur suisse accusée tous les deux d'aider des mineurs en difficulté. Raphaël Kraft nous racontera.
Dans ce journal également, le mouvement des jeunes socialistes qui vacille. L'un de ses anciens présidents est accusé de harcèlement et violence sexuelle par au moins 8 femmes.
L'audiovisuel public dans la tourmente. Les présidents des groupes doivent donner leur piste de réforme aujourd'hui, quand la fuite d'un document du ministère de la Culture envisage déjà la mise en place d'une holding qui les rassemblerait. Explication à suivre.
Et justement, après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs reviendra sur les plaintes déposées par le gouvernement pour décourager les fuites de documents.
Good morning, Zimbabwe. Fellow Zimbabweans.
Good morning Zimbabwe. Tôt ce matin, c'est donc avec ces mots que l'armée a pris le pouvoir au Zimbabwe sur la chaîne nationale contrôlée depuis cette nuit par des militaires. Ce n'est pas un coup d'État, disent-ils. La famille présidentielle, les Mugabe, sont sains et saufs. Pourtant, des tirs avaient été entendus quelques heures plus tôt à Harare, la capitale, près de la résidence du président Robert Mugabe. Il règne sur le pays depuis 37 ans maintenant, depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Quand la semaine dernière son parti au pouvoir a évincé le vice-président au profit de la première dame et donc de sa famille, l'armée l'avait mise en garde. Cette nuit, elle est passée à l'action et le général Sibusiso Moyo s'en est expliqué sur la chaîne de télévision nationale.
À la suite de notre communiqué du 13 novembre 2017, la situation dans notre pays a évolué vers un nouveau stade. Nous souhaitons assurer à la nation que Son Excellence le Président du Zimbabwe et commandant en chef, le camarade Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs et leur sécurité est garantie. Nous visons uniquement les criminels autour de vous, responsables des crimes à l'origine des souffrances sociales et économiques de notre pays, afin de les amener devant la justice.
L'allocution d'un général du Zimbabwe traduite par François-Charles Domerc reste que tous les accès au Parlement et aux bureaux gouvernementaux sont filtrés ce matin, bloqués par des véhicules blindés de l'armée. Tard hier soir, les États-Unis et le Royaume-Uni demandaient à leurs ressortissants de se protéger et de rester chez eux.
Et puis on en vient, Clara, à cette interpellation musclée de deux journalistes.
Et nous sommes en France, dans la région de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Ce week-end, une journaliste suisse du Temps et notre confrère Raphaël Kraft faisait un reportage sur les migrants qui traversent les Alpes pour rejoindre la France. Raphaël Kraft, vous êtes revenu et donc à nos côtés ce matin, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous dans quelles circonstances tout cela s'est passé.
Avec ma consœur du Temps, Caroline Christina, nous accompagnions un accompagnateur de montagne à la retraite sur le col de l'échelle pour prendre compte de la situation, voir s'il y avait une forte présence policière ou non. Nous avons garé la voiture sur le bas-côté, avons marché et puis nous avons entendu dans les fourrés des craquements de bois morts. Nous sommes allés voir et nous sommes tombés nez à nez sur... quatre mineurs non accompagnés déclarés avec des visages juvéniles. Ils étaient transis de froid. Comme nous nous retrouvions à cette personne, Alain, le prénommé, a téléphoné à son ami Jean-Paul pour qu'il vienne nous chercher tous. Nous avons ensuite pris les voitures, nous sommes descendus en direction de Briançon et dans le petit village de Val-des-Prés, nous sommes tombés sur un contrôle de la gendarmerie nationale.
Il est susceptible d'être relevé à votre encontre une aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour de personnes en situation irrégulière, ce qui est un délit pénal. D'accord ? On vous invite à nous suivre librement dans les locaux de la brigade de Briançon afin d'être entendu sur les faits. Les personnes qui sont en situation irrégulière vont rester avec mes collègues qui feront ce qui s'impose. D'accord ?
C'est quoi ce qui s'impose ? Pouvez-vous me le dire ?
Je ne sais pas, je m'en occupe pas.
D'accord.
Moi, je m'occupe des personnes qui font l'aide à l'entrée ou au séjour en situation régulière.
D'accord, mais ce sont des personnes irrégulières lorsqu'ils ne sont pas mineurs. Parce que lorsqu'ils sont mineurs, il y a deux choses qui s'appliquent. C'est d'abord leur minorité et ensuite le fait qu'ils soient étrangers. C'est deux choses et il y a leur droit par rapport à ça. Ce sont donc des enfants qui sont en danger quand ils sont à la nuit dehors.
Ce soir, je ne vais pas faire un débat de pénaliste avec vous.
Non, bien sûr.
D'accord, j'applique le code de procédure pénale.
Le lendemain matin, dimanche 12 novembre, Caroline Christina, ma consoeur du temps, a été entendue comme mise en cause dans cette affaire. Informée des événements en fin de matinée le dimanche, Raphaël Ballan, procureur de la République du tribunal de grande instance de Gap, a ordonné mon audition comme témoin et non comme mis en cause. Rosé, Mamadou, Lassana et Thierno, les quatre mineurs non accompagnés, n'ont pas pu bénéficier de la protection de la France qui leur était due. Dans Le Temps, dans son édition du vendredi, sur France Culture, le même jour à 17h, nous révélerons avec Caroline Christina dans quelles conditions ces quatre enfants déclarés se sont vus notifier un refus d'entrée sur le territoire français. Nous expliquerons pourquoi, selon nos observations, ils se trouvaient en définitive plus en sécurité dans les voitures des prénommés Alain et Jean-Paul qu'entre les mains de la gendarmerie nationale.
Et nous vous retrouverons donc après-demain. Merci Raphaël Kraft. J'ajoute ce communiqué de Reporters sans frontières diffusé hier. Il rappelle que l'exercice du journalisme n'est pas un délit et que la protection des sources est un droit. La France est 39e mondiale dans son classement de la liberté de la presse, classement de RSF. À la une également ce matin et littéralement en une du quotidien Libération, des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle visant l'ancien président du MJS, le mouvement des jeunes socialistes. 8 femmes dénoncent les agressions sexuelles qu'elles ont subies de la part de Thierry Marshall-Beck entre 2010 et 2014. Les faits sont dans la majorité prescrits et n'ont pour l'instant pas fait l'objet d'une plainte. 2 victimes y réfléchissent, précise le journal. Dans l'entourage de cet ancien jeune élu, la surprise est immense. Ludovic Piétonu.
J'ai travaillé avec lui pendant de très longs mois. Je n'ai jamais rien vu ni rien entendu. C'est seulement après mon activité à ses côtés que des faits m'ont indirectement été rapportés. Ce témoignage, c'est celui d'un ancien permanent du MJS qui n'a jamais su trop quoi faire de ces rumeurs. Une autre très proche de Thierry Marshall-Beck avoue elle aussi sa surprise quand une première victime brise le silence et lui téléphone il y a moins de 3 semaines.
Moi, les témoignages de ces femmes, ça m'a vraiment fait froid dans le dos, quoi. Ça m'a levé le cœur. J'étais loin d'imaginer le contenu global de l'article, quoi.
Lauriane Degnaud, elle a présidé les jeunes socialistes de 2009 à 2011, juste avant que n'officie à cette fonction Thierry Marshall-Beck.
Je me dis que forcément, ça s'est passé dans notre organisation, qui est une organisation qui défend les valeurs du féminisme. On était très engagés sur ces questions-là. J'étais moi-même, en tant que présidente, très engagée sur ces questions-là. Donc forcément, je me dis que si ça a pu se passer dans notre organisation, c'est que ça se passe partout ailleurs. Et qu'en fait, on le sait, que ça se passe partout.
Au sein du PS ou ici du MJS, la parole se libère aujourd'hui plus que dans tout autre parti politique. Il y a 3 semaines, Gilbert Cuzot, un élu socialiste d'Île-de-France, a été visé par 2 plaintes pour agression et harcèlement sexuel. Et depuis, en interne, me racontent plusieurs personnes contactées, les femmes se sentent légitimes pour parler. La preuve aujourd'hui avec cette affaire hors norme, 8 femmes accusent le même homme.
Ludovic Piétenu. Alors Thierry Marshall-Beck n'est plus membre du Parti Socialiste depuis 2 ans, mais le PS a réclamé hier soir des suites judiciaires. Payer pour échapper à un procès, la loi Sapin 2 le permet depuis 1 an pour les entreprises et la procédure venue des États-Unis a été utilisée pour la première fois en France hier par HSBC. Le groupe bancaire était poursuivi pour démarchage bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale, un délit grave qui va donc se solder par une amende de 300 millions d'euros, soit 5 jours de profit pour la banque. Une semaine après les révélations des Paradise Papers, c'est un peu trop facile, regrette le vice-président de l'ONG Anticor, Eric Alt.
Ça pose un problème de principe, qui est le problème d'égalité des justiciables devant la loi. D'autres entreprises, de petites entreprises, devront toujours justifier devant le tribunal correctionnel de leurs agissements. Pour HSBC, le traitement est un traitement particulier. Je comprends que du point de vue du parquet financier, il y avait une rationalité à cela. Le parquet financier a des moyens limités. C'est un procès qui n'avait pas de précédent et pour des sommes de cette ampleur, il y avait un aléa juridique. Investir sur une audience de ce type, c'était moins bien traiter d'autres dossiers. Donc, quant à faire, récupérer 300 millions dans un contexte de moyens limités, ça se comprend. Ça se comprend évidemment du point de vue de HSBC, ça se comprend un peu plus difficilement du point de vue de l'égalité des citoyens devant la loi. Si je compare ça à une situation de droit commun, je vole une voiture, je la rends un peu plus tard dans les conditions où je l'ai volée, eh ben c'est très bien. Et c'est un peu cela. Ce sont des sommes qui ont été placées en Suisse. Aujourd'hui, elles sont rendues et on n'en parle plus.
Eric Alt, joint par Marie Viennot.
Des économies, le gouvernement veut en trouver partout et ne se ferme aucune porte. La preuve avec l'audiovisuel public, Clara.
Aujourd'hui, les patrons de France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde doivent rendre leurs réflexions personnelles sur le sujet. Sauf que ils se disent surpris d'avoir appris dans le quotidien Le Monde avant-hier que le gouvernement avait déjà ses propres pistes draconiennes. Un document de travail du ministère de la Culture où l'on apprend notamment que la piste du holding, d'une holding pour chapeauter tous les groupes de l'audiovisuel public, cette piste est sur la table. Alors quel est vraiment le calendrier et à quoi joue l'exécutif? Question posée par Lise Verbeck à Alexandre Picard, journaliste au Monde, spécialiste des médias.
Le gouvernement a lancé deux processus en parallèle. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le timing de la révélation du document gêne le gouvernement. Parce qu'en fait, d'un côté, il participe à une grande réflexion qui s'appelle Cap 2022, qui d'ici mars doit proposer des énormes réductions de dépenses publiques de l'ordre de 3 points de PIB. Et en parallèle, le gouvernement, via la ministre de la Culture, a demandé aux sociétés Radio France, France Télévisions, de proposer des pistes d'évolution pour les années à venir. Et ça, c'est un calendrier d'ici la fin de l'année. Dernière chose, le débouché législatif qui pourrait mettre en œuvre et transformer dans la loi tous ces changements, ce serait la loi qui transposerait la directive européenne sur les services de médias audiovisuels qui aura lieu dans la deuxième partie de 2018. C'est une loi qui doit transformer en droit français la directive européenne qui est en train d'être modifiée actuellement et qui régit les services de médias audiovisuels. S'il faut enlever au CSA le pouvoir de nommer les présidents d'audiovisuel public, c'est par cette loi qu'on peut le faire. S'il faut créer une holding pour rassembler toutes les sociétés d'audiovisuel public, ce sera dans cette loi. S'il faut nommer un président unique pour diriger cette structure, ce sera également là-dedans.
La deuxième tentative sera-t-elle meilleure? Les emplois francs mis en place sous François Hollande, ce système de primes pour les entreprises embauchant les habitants des quartiers populaires, n'a pas convaincu. Mais Emmanuel Macron souhaite les relancer. Il l'a dit hier. Alors, est-ce que cela peut fonctionner, Annabelle Grelier?
D'abord, la conjoncture économique n'est pas la même qu'en 2014, disent les employeurs. La reprise est là et les entreprises ont besoin d'embaucher. Mais le coût du travail reste un frein et cette prime à l'emploi, qui peut aller jusqu'à 15 000 euros sur 3 ans pour un CDI, parle aux employeurs, estime Éric Malenfer, patron du groupe J'Expertise et administrateur au MEDEF.
Moi qui ne prône pas l'emploi subventionné, pour autant cette mesure elle est bonne. Ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est incitative. Bon, on sait bien que l'incitation c'est toujours mieux que le coup de bâton. Donc l'incitation peut permettre, si vous voulez, cette curiosité qui est également de se dire, ben, pourquoi pas. L'autre chose, c'est que c'est une mesure archi simple. Vous savez, avec un entrepreneur, il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que ce soit simple, parce qu'il a tellement de choses déjà à comprendre tout, comme réglementation, là c'est facile. Vous employez quelqu'un, paf, vous avez une aide.
Alors l'emploi franc en nouvelle version, serait-il mieux qu'un emploi aidé? Ce n'est pas en tout cas l'avis de Christophe Doré, il est artisan coiffeur et président de l'UDP Normandie.
Quand il y a eu la suppression des contrats aidés, c'est quelque chose qui m'a un peu déplu, parce que je pense qu'on peut sortir des gens des fois qui ont des besoins et qu'on peut les accompagner. J'ai des exemples où aujourd'hui on a sorti des jeunes grâce à ces contrats aidés. Néanmoins, aujourd'hui, quand le gouvernement veut mettre en place des aides pour des jeunes dans un quartier défavorisé, bah écoutez, je préfère que ce soit une entreprise qui touche les aides pour qu'on emmène un jeune vers l'emploi qu'aujourd'hui il soit au RSA. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant. Et pour lui, c'est valorisant pour l'entreprise et c'est valorisant pour l'artisanat qui a besoin de main-d'œuvre.
12 000 à 25 000 emplois francs seront expérimentés dès 2018 dans 7 agglomérations dites prioritaires. Le dispositif devrait être généralisé en 2020.
Et après cette séquence politique de la ville, c'est sous le feu des critiques des écologistes français qu'Emmanuel Macron est attendu à Bonn en Allemagne aujourd'hui pour la COP23. Les décisions prises par le gouvernement et notamment le report de la sortie du nucléaire n'ont pas envoyé de bons signaux ces derniers temps. Idem en Allemagne pour la chancelière Angela Merkel, toujours trop attachée au charbon. Difficile donc pour les deux chefs d'État de convaincre leurs homologues aujourd'hui, Véronique Roberotte.
Tous les signaux sont au rouge, c'est le moment de se montrer plus vert que jamais. Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel, devront trouver des mots forts cet après-midi à Bonn pour convaincre de leur engagement dans la bataille planétaire contre le réchauffement climatique. On attend du couple moteur de l'Union européenne qu'il entraîne d'autres pays dans son sillage. C'est le rôle endossé par la France depuis l'accord de Paris. Or, Paris et Berlin ont montré ces derniers temps quelques signes de faiblesse dans leur transition énergétique. La France a reçu ici le prix peu envié de Fossil of the Day pour avoir repoussé l'échéance de réduction de la part du nucléaire. Un renoncement qui implique que la France n'est guère prête à s'engager vraiment dans les énergies renouvelables. Le surnom de chancelière du climat, longtemps donné Angela Merkel, n'est plus qu'un lointain souvenir. L'Allemagne est en train de réussir sa sortie du nucléaire, mais sans parvenir à abandonner le charbon. Une sortie du nucléaire pourtant compensée par la production d'énergie renouvelable, mais c'était sans compter sur la croissance économique allemande repartie à la hausse. Conséquence, le charbon ne devrait pas permettre à Berlin d'atteindre ses objectifs climatiques. La question empoisonne les négociations menées par Angela Merkel pour former un gouvernement de coalition. Effet mauvais genre à Bonn.
Véronique Robérotte à Bonn donc pour France Culture. La météo plus au sud en France cette fois. Elle sera plutôt de saison aujourd'hui mercredi. Prévoyez des nuages, voire de la pluie sur une large partie du nord-est, du soleil partout ailleurs et des températures toujours plus froides. Moins 1 degré ce matin à Besançon, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Nantes, 8 à Paris et jusqu'à 13 degrés à Nice.